Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. L'antenne vous appartient comme tous les jours, du lundi au vendredi jusqu'à 11h heure de Paris, 9h en temps universel, avec dans un instant évidemment vos questions à la rédaction. C'est votre rendez-vous avec les journalistes d'RFI et c'est l'occasion de nous poser toutes vos questions afin de mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter, mieux comprendre tous les sujets que vous entendez sur l'antenne de RFI, eh bien vous nous rejoignez, vous nous appelez 01 53 92 64 40. Évidemment, si vous êtes à l'étranger, vous composez d'abord le 33 1 suivi du 53 92 64 40. Et puis en deuxième partie d'émission, un débat. Nous parlerons tout à l'heure de l'Union pour la Méditerranée, 43 pays, 750 millions d'habitants. L'UPM est censée rapprocher l'Union européenne des pays du sud et de l'est de la Méditerranée. D'ailleurs, pour renforcer la coopération entre les deux rives, eh bien 6 projets ont été retenus. Il s'agit notamment de dépolluer la Méditerranée, de développer des infrastructures de distribution d'électricité ou encore de créer une autoroute du Maghreb arabe. Mais pour Muammar Kadhafi, le seul grand absent hier à Paris lors du sommet, eh bien l'UPM risque de diviser la Ligue arabe et l'Union africaine. D'ailleurs sur ce point, le dirigeant libyen est soutenu par le président sénégalais Abdoulaye Wade, pour qui cette union est une barrière qui va isoler l'Afrique subsaharienne. Alors partagez-vous ces inquiétudes, que vous inspire ce projet, quelles sont vos attentes, qu'attendez-vous de cette nouvelle union? 01 53 80 12 64 40. Nous passons donc au standard avec une première question. Elle nous vient de Macao. Bonjour Alex.
Allô, bonjour.
Bienvenue sur l'antenne des RFI. Vous êtes donc à Macao. Vous avez des questions concernant la campagne électorale aux États-Unis.
Oui. En fait, moi j'ai des questions. Alors, je serais très intéressé de savoir s'il y a des vice-présidents potentiels déjà pour Barack Obama, s'il a déjà une liste de favoris. Et puis, la deuxième question, c'est de savoir si ce n'est pas une manœuvre politique pour lui de ne pas tout de suite dévoiler qui sera son candidat et à quoi correspond ce manœuvre politique. Et enfin, je voudrais savoir le fait qu'il se rapproche davantage d'Hillary Clinton, est-ce que cela ne voudrait pas tout simplement dire que c'est Hillary Clinton qui fait partie de ses favoris, qui sera finalement son choix?
Ouais, c'est vrai que certains reparlent d'un ticket Obama-Clinton. On a vu Barack Obama effectivement se rapprocher la semaine dernière d'Hillary Clinton. Tous les deux étaient ensemble. Sylvain Biville, bonjour. Merci d'être avec nous. On voit bien que Barack Obama prend son temps pour désigner son colistier. Officiellement, le candidat démocrate n'a toujours pas fait son choix. Peut-être avant d'expliquer et de répondre précisément aux questions d'Alex, on va peut-être faire le point en nous expliquant un peu le processus de sélection des colistiers et des vice-présidents.
Oui, parce que le processus est exactement le même pour les républicains comme pour les démocrates. Alex, vous nous posez une question sur Barack Obama, mais John McCain, lui non plus, n'a toujours pas fait savoir qui serait son colistier. Et c'est vrai que c'est un peu la quadrature du cercle pour un candidat de choisir son colistier. Il faut qu'il ait toutes les qualités du monde, il faut qu'il soit complémentaire du candidat, capable de contrebalancer ses points faibles. Ça pourrait être quelqu'un expérimenté en politique étrangère pour Obama, quelqu'un de jeune pour John McCain, qui aura 72 ans au moment de l'élection. Contrebalancer ses points faibles, mais sans trop les souligner. Le candidat à la vice-présidence doit être compétent, mais sans pour autant trop briller et faire de l'ombre au numéro 1 sur le ticket. Il doit y avoir une bonne alchimie, une bonne entente entre les deux. Et puis, une des fonctions essentielles aussi du candidat à la vice-présidence, c'est de faire gagner le candidat. Il doit, c'est un plus s'il vient d'un état-clé, un de ces états où l'équilibre des forces est assez resserré. Bon, ça c'est aussi un critère qu'il faut relativiser, puisque aucun des candidats à la vice-présidence n'a permis à un candidat de l'emporter depuis Lyndon Johnson, qui était le vice-président de John Kennedy en 1960. Oui. Voilà, donc c'est un portrait rebond en fait qui est tellement exigeant que c'est peut-être une personne impossible à trouver.
Alors justement, Sylvain, à partir des critères là que vous venez de définir, on peut peut-être jouer au pronostic, puisque Alex nous demande si Hillary Clinton a des chances aujourd'hui finalement d'être la vice-présidente de Barack Obama en cas de victoire.
C'est vrai que Barack Obama a dit lui-même qu'elle serait sur la liste des vice-candidats à la présidence idéaux pour tout candidat. Il semble bien qu'elle soit sur cette liste. Vous savez qu'il y a un processus de sélection qui est très compliqué. Une équipe a été mise en place. Il y a d'abord une recherche sur le passé du candidat. Ensuite, on envoie des questionnaires très détaillés à chacun des candidats potentiels. Et puis la troisième étape, c'est l'établissement d'une liste de 10-15 personnes à qui une documentation très très fouillée est demandée. On recherche leur passé, on recherche, il y a des enquêtes sur leur vie privée, sur leur feuille d'imposition, sur leur bulletin de santé. Et alors, c'est vrai qu'on a vu la semaine dernière Hillary Clinton aux côtés de Barack Obama pour plusieurs réunions de collecte de fonds, notamment à New York. Mais juste après, un des conseillers d'Hillary Clinton a dit qu'elle n'avait pas encore été soumise à cet examen approfondi qui est un peu l'indice qui permet de savoir si une personne est approchée comme potentiel candidat à la vice-présidence. Donc c'est vrai que ça cote, puisque vous savez qu'il y a toute une série de pronostics, hein, la blogosphère s'enflamme sur des pronostics sur les colistiers potentiels de Barack Obama et de John McCain. Sa cote avait un peu remonté la semaine dernière, elle a un peu diminué en fin de semaine après les indiscrétions de son conseiller qui dit on lui a pas encore demandé de documents approfondis. Parmi les autres candidats potentiels, on va pas jouer hein, au jeu des pronostics puisque c'est très compliqué, mais il y a d'autres femmes qui tiennent la corde. Par exemple, la gouverneure du Kansas, Kathleen Sebelius. Barack Obama a dit que c'était une personnalité remarquable la semaine dernière. Il y a aussi Janet Napolitano qui est la gouverneure de l'Arizona. Ça serait un choix intéressant parce que l'Arizona c'est l'état de John McCain. Et en plus, Janet Napolitano a une autre qualité, c'est qu'elle appartient à la communauté hispanique. Voilà, bon, il y a encore toute une série de candidats potentiels. Effectivement, la liste se précise un peu, mais on ne connaîtra véritablement le candidat. Bon, le choix du moment est important, hein, parce que ça impulse une dynamique dans une campagne, l'annonce du candidat à la vice-présidence. Barack Obama avait dit il y a quelques semaines que ce serait probablement la décision la plus importante qu'il aurait à prendre avant l'élection de novembre. Ouais. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le suspense ne va pas durer très très longtemps. Il faudra que les candidats à la vice-présidence soient désignés avant la convention. La convention aura lieu dans 6 semaines pour la convention démocrate. C'est fin août, ce sera dans le Colorado à Denver.
Ouais. Alex, a-t-on répondu à vos questions ?
Ah oh ouais, je crois que je suis satisfait de tout.
Bah merci. Ouais. Merci de nous écouter sur Internet à Macao. Bonne soirée à vous. Merci Sylvain Biville d'avoir été en direct avec nous. Il est 10h18 à Paris. On repasse au standard 01 53 92 64 40. Nous allons parler du Tour de France. Midas, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous nous appelez de Lomé au Togo. Nous vous écoutons.
Je voulais tout simplement savoir pourquoi, malgré les soupçons de départ qui pesait sur Pepatu Marais, il a pu participer au Tour de France. Alors que Contador, le vainqueur du Tour en 2007, a été qualifié.
Ah oui, Contador, effectivement, qui n'a pas participé, il ne participe pas au Tour de France. C'est vrai qu'il n'a jamais été contrôlé positif. Tandis que l'Allemand Schumacher, effectivement, il y a eu des soupçons. Ça suscite pas mal de questions, effectivement. Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Lomé.
Vous êtes dans les Pyrénées, hein, vous êtes l'un des envoyés spéciaux sur la route du Tour de France. Comment se fait-il que Contador, qui pourtant n'a jamais été contrôlé positif, contrairement à Schumacher, ne participe pas à l'édition 2008 du Tour ?
Et vous m'en direz tant, mon bon monsieur. Eh bien, écoutez, tout simplement parce que c'est son équipe qui est sanctionnée. C'est l'équipe dans laquelle qu'il a intégré en fait cette saison qui est sanctionnée, l'équipe Astana, qui aurait dû en fait être exclue des trois tours. Hein. Les organisateurs du Giro finalement les ont invités, ce qui a permis à Contador d'ailleurs de remporter le Giro après avoir remporté le Tour l'an passé. Mais pourquoi Astana est dans l'œil du cyclone, surtout des organisateurs du Tour de France ? Eh bien, tout simplement parce que cette équipe était celle de Vinokourov l'année dernière, Vinokourov qui faisait partie des favoris du Tour 2007 et qui, après une dizaine de jours de course, a été contrôlé positif et exclu donc de ce Tour 2007. Astana a suivi et résultat, cette équipe est jugée indésirable aujourd'hui par les organisateurs du Tour de France. Voilà pourquoi elle n'est pas présente sur cette édition 2008 et pourquoi donc, par voie de conséquence, Contador n'est ne peut pas défendre son titre. Par rapport à Stefan Schumacher, on peut comprendre hein, qu'on se pose la question. Il faut simplement savoir que Stefan Schumacher n'est pas le seul coureur qui sur lequel planent des soupçons de dopage hein, parmi tous les coureurs présents sur cette édition 2008, qui a été déjà une première fois entachée, hein, il faut le rappeler, c'était vendredi dernier, vous en souvenez sans doute, avec l'exclusion de Manuel Beltran. C'est aussi la preuve que la lutte continue, qu'elle s'intensifie, qu'on cherche à coincer les tricheurs. Du côté de Stefan Schumacher, la dernière fois qu'on l'a soupçonné, c'était fin 2007. L'histoire est assez rigolote, finalement. Il rentre sous d'une soirée enfonce le portail du jardin de la voisine. Jusque-là, on peut plutôt en rire. Le problème, c'est que la police débarque, qu'on le contrôle bien sûr avec de l'alcool dans le sang, mais aussi des amphétamines. Alors, s'en est suivi une sorte d'opération rédemption. Il a fait des excuses à la télé, il a dit qu'il avait été stupide. Mais en soi, l'alcool, les amphétamines, c'était plus dû à une soirée où il avait voulu faire la fête. Et puis l'affaire s'est tassée, il a été puni par son équipe, il a été privé d'entraînement, privé de début de saison et donc des classiques ardennaises. Il en était très malheureux, nous a-t-on dit.
Puni par son équipe.
Son directeur sportif assure que s'il est sur le tour, c'est parce qu'il est propre et qu'en Allemagne, on n'en peut plus des coureurs dopés avec le scandale Ulrich et tout ça. Le vélo est vraiment en train de plonger en Allemagne. Les sponsors s'arrêtent. Deutsche Telekom a arrêté. Gerold Steiner, le sponsor de Schumacher et de l'équipe de Schumacher, va s'arrêter en fin de saison. Bref, Hans-Michael Holzer, le directeur sportif de Schumacher, nous dit si on l'a pris, c'est qu'on juge qu'il est clair, parce qu'on ne prendrait pas de risque vu l'état du cyclisme en Allemagne.
Effectivement. Merci d'avoir été en direct avec nous, Olivier Pron, et on vous retrouve évidemment tout au long de la journée pour suivre avec vous cette nouvelle étape du Tour. Départ à Pau dans quelques heures. Midas, bonne journée à Lomé. Philippe Lémarie s'installe dans ce studio. Philippe Lémarie, spécialiste des questions militaires. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et des questions, nous en avons reçues hein, concernant ce fameux bouclier antimissile américain. Samy nous pose la première question. Bonjour Samy.
Bonjour Yann.
Bienvenue, vous êtes à Franceville, au Gabon.
C'est bien ça.
C'est bien ça, nous vous écoutons.
Alors, j'ai entendu dire que les États-Unis ont fait une proposition à la Russie pour qu'elle soit partenaire associée de ce projet. Qu'en est-il? Est-ce que la Russie va-t-elle accepter cette proposition ou non?
Alors, la Russie va-t-elle accepter? D'autant que la Russie dénonce hein, ce bouclier antimissile américain. On peut peut-être rappeler en deux mots en quoi il consiste. C'est un bouclier qui est censé, on va dire, contrer une éventuelle menace, et notamment une menace iranienne.
Voilà, c'est une image, un bouclier. Évidemment, il n'y a pas de bouclier. Il y a simplement une bulle autour d'un radar qui devrait être installé en République tchèque. Il y a eu un accord qui a été passé récemment entre les Américains et les Tchèques à ce sujet. Et puis, il y aurait en Pologne, mais l'accord n'est pas du tout conclu encore, il y aurait peut-être un jour en Pologne, donc une dizaine de rampes de missiles, il s'agit de grandes, des fusées hein, à plusieurs étages, enfin d'une douzaine de mètres de longueur, c'est quand même quelque chose de conséquent, et avec ça les Américains sont censés arrêter en cours de route d'éventuels missiles intercontinentaux qui seraient tirés par exemple d'Iran. Voilà un petit peu ce que c'est que le entre guillemets bouclier.
Et c'est bien d'avoir planté le décor car un auditeur nous demandait justement par courrier électronique à quoi peut ressembler effectivement un bouclier antimissile. Alors la Russie considère ce bouclier comme une menace finalement contre sa sécurité. Moscou se sent un peu directement visé. Hein,
voilà,
parce que ça
se rapproche de ses frontières, bien sûr, parce qu'aussi ça peut, dit-elle, désorganiser toute sa dissuasion. Et puis les radars en question peuvent regarder autant du côté de la Russie finalement, peut-être que du côté de l'Iran. Alors qu'est-ce que disent les Américains? Ils répètent sans arrêt que ça n'est pas menaçant pour la Russie, que d'ailleurs ça ne pourrait pas toucher la Russie, ces fameux missiles antimissiles. Ils ont proposé, les Américains, que des observateurs militaires russes puissent s'installer dans ces bases ou y venir en tout cas régulièrement. Mais il faut dire tout de suite que les Tchèques qui ont signé donc avec les Américains refusent cette éventualité. Vous savez que ce sont des pays qui ont connu pendant longtemps l'occupation soviétique en fait, et qui maintenant sont assez nerveux dès qu'on parle de militaires russes qui s'approcheraient. Donc ça s'est refusé. Il est possible que les Polonais, si jamais l'accord est signé avec la Pologne un jour, refusent également la présence de permanente.
Donc il y a peu de chances qu'il y ait des observateurs russes dans ces bases.
Peu de chances. En revanche, les Russes aussi ont essayé de tester les Américains là-dedans. Ils leur ont proposé, par exemple, puisque vraiment vous dites que c'est une installation qui ne vise que des menaces extérieures à nous-mêmes, à nous, la Russie, nous proposons l'usage de notre radar qui se trouve en Azerbaïdjan refusé par les Américains en revanche qui ne veulent pas se mêler, enfin qui ne veulent veulent pas, qui veulent bien un statut d'observateur, si vous voulez, pour les Russes, pour les mettre dans le coup, qui veulent bien essayer de faire un peu de transparence, mais qui ne veulent pas, de manière organique, disons, travailler avec les Russes.
Ouais. Samy, a-t-on répondu à votre question ?
Je voudrais aussi savoir pourquoi les pays de l'Europe ne réagissent pas.
Réaction des autres pays européens. Bah, écoutez, ils y sont globalement favorables, non ?
Oui, voilà. Tous les pays, la plupart des pays européens, d'abord, sont au sein de l'OTAN. Mmh. Et l'OTAN, bah, l'OTAN, c'est l'Amérique, hein, pour aller vite, hein, pour aller très vite. Le bouclier, ce qu'on appelle le bouclier, c'est une affaire américaine, bilatérale, qui a été conclue, ou qui est en voie d'être conclue avec les Tchèques et avec peut-être un jour les Polonais, sans consultation des autres Européens et sans consultation de l'OTAN. Mmh. En fait, c'est une affaire bilatérale. Donc, il y a qu'est-ce que les Européens espèrent, un parapluie, disons, au sens large du terme, qui leur profitera aussi, mais ils pensent aussi, certains, comme d'ailleurs une grande partie de l'opinion tchèque, pensent que ça va faire de leur pays une cible aussi. Hein, oui. C'est pour prévenir un danger, mais ça amène peut-être un autre danger.
Alors justement, Saïd Bokhara, malheureusement, la liaison téléphonique avec Kai O'Malley n'est pas très bonne. Il nous dit pourquoi le gouvernement de la République tchèque accepte d'avoir un bouclier antimissile américain sur son sol, surtout quand on sait que justement, les trois quarts de la population est contre ce projet. 68% oui. Des Tchèques sont contre.
Ben oui, ou même 70%, dit-on parfois. Enfin bref, le politique, d'abord, avantage politique. Hein, ça fait donc 40 ans que ces pays étaient... Ils ont vécu 40 ans de tutelle soviétique. Ce sont des membres de l'OTAN et de l'Union européenne aussi, mais de l'OTAN. Le Premier ministre Topolánek tchèque là, est un libéral pro-américain, pro-OTAN, beaucoup plus que pro-européen. Il est au contraire assez rétif à l'Union européenne, justement. Tout ça, cet accord hein, qui vient d'être conclu fait de la République tchèque un partenaire privilégié des Américains. Ils peuvent en espérer un certain nombre de retombées diplomatiques, voire économiques et militaires, parce que les Américains, du coup, vont établir une espèce de parapluie, disons, autour de la République tchèque. Il y a d'ailleurs un accord scientifique et technique qui a été conclu entre les Américains et les Tchèques pour que des techniciens et ingénieurs tchèques puissent participer un petit peu à l'installation de ce bouclier entre guillemets, ou de ce radar en l'occurrence, qui ne sera pas en place avant 2011-2012. Tout ça malgré l'opposition, vous le disiez, social-démocrate, des mouvements pacifistes, de l'opinion, donc, pour qui la République tchèque, du coup, devient une espèce de cible, pour qui les retombées finalement qui sont prévues sont faibles. Hein. Il n'y aura même pas de loyer. La base américaine, avec 250 soldats, ne payera pas de loyer, ce qui n'est pas d'habitude, on paye un loyer quand on installe une base. La surveillance d'ailleurs de cette base, sa protection extérieure devra être assurée par l'armée tchèque en faible. En fait, donc ça fait des retombées relativement faibles pour un dispositif qui est plus américain qu'européen en fait. Ouais. Hein, et malgré les mises en garde donc répétées de Moscou.
En tout cas, concernant l'accord signé la semaine dernière, il faut qu'il soit maintenant validé par le Parlement tchèque. Et on sait que l'opposition est globalement opposée hein, à ce bouclier américain. Ouais. Donc il va falloir que certains membres de l'opposition finalement approuvent hein, le déploiement de cette base, puisque quand on regarde un peu la composition du Parlement, la coalition au pouvoir dispose vraiment de la moitié des sièges. Donc,
Juan, l'important aussi, c'est que c'est la Pologne. La Pologne est très opposée pour le moment. Enfin, fait monter en tout cas les enchères pour essayer d'avoir dans la négociation un certain nombre d'avantages. Ils demandent ce qu'on appelle des missiles ou des batteries patriotes, qui sont des armements très modernes dans leur version la plus récente, pour être protégés, parce qu'ils estiment aussi que ça va faire d'eux une cible. Et la Pologne, ce sont les rampes de lancement. S'il n'y a pas de rampe de lancement, c'est pas la peine d'espérer un bouclier.
Philippe, il nous reste à peine une minute. Saïd nous disait également, est-ce que les Américains ont déjà des boucliers antimissiles ailleurs dans le monde ?
Oui, ils en ont un certain nombre, bien sûr. D'abord en Alaska, où il y a une vingtaine d'intercepteurs. En Californie aussi, il y en a 3 ou 4. Ils ont 2 bases radars aussi, une en Angleterre, hein, à Fyingdales, si je prononce bien. Une autre à Tulé, au Groenland. Voilà, donc il y a tous ces établissements.
Merci Philippe Lemarais. On salue Saïd Bokhara qui a dû évidemment écouter vos explications avec son transistor à Kai. Et on salue tous ceux qui nous écoutent sur place. Vous êtes nombreux dans cette région malienne. D'autres questions à la rédaction des RFI évidemment demain à partir de 8h10 temps universel, 10h10 heure de Paris. Vous nous appelez tout au long de la journée. Ça nous permet bien évidemment de préparer cette émission. 01 53 92 64 40. Vos questions également par courrier électronique. Notre adresse appel au pluriel @actu@rfi.fr. Et n'oubliez pas de nous envoyer un numéro de téléphone, car le principe, le but de l'émission, c'est que vous puissiez évidemment poser directement vos questions à la rédaction d'RFI. À suivre le journal, et nous serons de retour dans 10 minutes avec notre débat, vos réactions surtout concernant l'Union pour la Méditerranée.